Good Morning Business, le débrief de la matinale.
C'est déjà un grand jour. Mais nous avons encore une dernière chose. J'ai le plaisir de vous dévoiler une toute nouvelle plateforme de réalité augmentée et un nouveau produit révolutionnaire.
One More Thing, le nouveau produit d'Apple qu'on attendait depuis l'Apple Watch. Ça faisait 7 ans, 8 ans qu'on attendait. Enfin, Anthony Morel, il n'attendait pas trop.
Mais finalement,
il a été surpris quand même.
Oui, bien sûr. Mais comme tout le monde, je pense qu'on a suivi toute la keynote. On attendait avec impatience. Parce que la première partie de la keynote, la première heure et demie où il nous parle des widgets et du nouvel iOS, c'est quand même un petit peu long, on va pas se mentir.
C'est une conf développeur aussi.
C'est une conf développeur, absolument. Mais quand il y a le One More Thing et la présentation donc, de ce casque qu'Apple appelle un ordinateur spatial, mais qui est en fait un casque de réalité augmentée ou de réalité mixte. C'est vrai que ça fait son petit effet. Ça fait son petit effet parce que Apple, c'est des VRP géniaux. Ils ont fait des vidéos de présentation absolument incroyables où on voit donc des gens qui coiffent ce casque et qui se trouvent tout à coup téléportés dans un monde. Alors, ils voient ce qu'il y a autour d'eux, comme la
Mais c'est le mélange qui est,
et
c'est ça.
Sympa, ouais. Et on va avoir des écrans projetés. On peut se faire un petit multiplex, regarder le sport. On peut avoir un écran géant comme si on était au cinéma.
C'est arrêter très spectaculaire. De vivre dans la vraie vie et vivre avec ce casque.
Et voilà. Sur les images que vous voyez sur MC Découverte, les gens marchent avec ce casque pendant le frigo parce qu'on voit aussi la réalité.
Exactement.
Et commandent avec les doigts, ça c'est génial.
Alors c'est ça, parce qu'en fait, c'est vraiment, pour le coup, c'est un petit bijou de technologie. C'est-à-dire qu'il y a 5000 brevets qui ont été déposés, il y a des caméras absolument partout qui vont filmer à la fois à l'intérieur du casque pour pouvoir montrer aux gens à l'extérieur une image de votre visage en transparence, ça c'est pas mal. Et puis il y a des caméras qui vont vers le bas et donc qui analysent les mouvements de vos mains et donc vous pouvez gérer les différents écrans simplement avec des mouvements des doigts. Donc c'est assez spectaculaire.
Il y a des applications pour l'immobilier.
Ah bah oui.
Hein, c'est pour ça que ce sera bien que ça reparte, parce que les immeubles qu'on construit, les quartiers qu'on construit, les villes qu'on renouvelle, on ne sait pas ce que ça va donner. Et aujourd'hui, on a recours à ces casques. Alors à minima, on n'a pas ce degré de technologie pour montrer un futur logement
qui
va se construire. Et ça marche très bien. C'est très difficile d'imaginer.
On peut se promener dans son appartement.
Bien sûr. On peut se promener dans son quartier, dans son futur quartier, dans la ville qui est en train de se renouveler. Et c'est absolument magique. On est un peu en retard pour ces recours à la technologie. Mais les promoteurs, les professionnels de l'immobilier s'y collent et c'est extraordinaire. De même que la maquette numérique pour apprendre ce qu'il y a dans l'immeuble sans faire des saignées, etc. et mieux le réparer, ça va être magique.
Déjà des applications.
Oui, et d'ailleurs ça va être ça, les premières applications, ça va être des applications pour les pros, parce que quand on voit le prix de ce casque à 3 500 $, clairement c'est pas le grand public dans un premier temps, donc ça va être des applications professionnelles et puis ensuite peut-être une démocratisation.
Juste avant de vous entendre Frédéric, on va partir à Cupertino retrouver Melinda Davant. Soulas, on lui a posé la question tout à l'heure. Est-ce que ça va marcher, disrupter le marché, ce nouveau casque ? La réponse.
En fait, c'est toujours la même chose avec Apple. Ils ont cette force. Ils ne sont pas les premiers, c'est vrai. Et comme vous l'avez dit, on en a d'autres, des casques. Il y a le MetaQuest Pro, il y a le HoloLens, il y en a chez HTC. Il y en a plein depuis plusieurs années. Et c'est un marché qui est toujours de niche, ça ne prend pas. Mais Apple a cette force d'essayer de parler en fait, au plus grand nombre. Et quand on s'adresse au plus grand nombre, forcément, on a plus de chances d'élargir le marché et de le démocratiser. Ça, c'est la force d'Apple avec l'iPhone, avec les AirPods. Les écouteurs sans fil, ça existait déjà. Eux, ils arrivent avec des AirPods, tout le monde en achète et le marché se multiplie, mais à vitesse grand V. Là, franchement, il y a absolument tout. On a expliqué que ça allait être un futur ordinateur, ça va être aussi le futur iPhone. C'est le premier accessoire qui est sorti depuis très très longtemps, qui n'a pas besoin de l'iPhone. C'est un casque autonome.
Frédéric Simotel.
Oui, jour historique, dit Tim Cook en ouverture. Jour historique dans les deux sens. C'est-à-dire, jour historique, est-ce qu'on est au début de quelque chose que disait Anthony, le futur de la télé, du téléphone, du cinéma, ou est-ce qu'on est au plus grand flop pour Apple ? Parce qu'il y a un très gros risque quand même qu'ils prennent aujourd'hui. D'ailleurs, la preuve, la sortie de ce produit-là en 2024, on parle déjà des problèmes techniques, de surchauffe. La batterie, c'est seulement 2 heures. 2 heures, c'est même
pas le
temps.
Elle est externe, il faut la porter à la taille.
Oui, et puis c'est même pas le temps de la conférence. Là, on n'aurait pas pu suivre toute la conférence sur. Ouais. Donc il y a toutes ces questions.
Bon, sur secteur.
Voilà.
Et puis vous bougez plus.
Et puis on bouge plus.
On
c'est ça
plus
l'avenir, de toute façon. Oui.
Une bonne rallonge.
Voilà. les développeurs, il y a tout. Et derrière, et puis il y a une concurrence derrière à différents prix. Puis Apple va évidemment élargir sa gamme. Mais il y a quand même des Meta qui sont dessus. Il y a des Samsung, il y a des Google, il y a des Huawei qui vont arriver sur ce sujet. Donc là, il va y avoir.
C'est justement la question. Est-ce que ça n'a pas été ce qu'on appelle le iPhone moment, c'est-à-dire ce qui a été un big bang sur le marché de la téléphonie quand le premier iPhone est sorti. Boum, ça a fait exploser. explosé. Tout le reste, c'est pas seulement Apple qui a eu un succès, c'est toutes les autres marques et tout l'écosystème qui s'est construit autour. Là, c'est la même chose. Ça fait des années et des années qu'on voit des casques de réalité virtuelle qui prennent pas vraiment dans le grand public, la réalité augmentée. On voit que c'est pareil, les applications sont très timides. Là, on a peut-être tout cet écosystème, et c'était aussi l'enjeu de cette conférence hier.
Mais qu'est-ce qu'on a fait, Anthony Morel, là, il est...
Non, mais c'était de séduire aussi.
Il est converti.
C'était de séduire. Non. J'attends de tester. Moi, j'attends de tester. Mais on peut espérer, en tout cas, que ça séduise les développeurs, parce que c'est là que ça va se jouer aussi. C'est les développeurs qui vont concevoir ce qu'on appelle des killer apps, des applications qui donnent vraiment envie d'utiliser ces nouveaux matériels.
Pierre-René Lemavivre avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. Alors, je vois que vous avez des lunettes, nous aussi, avec Anthony Morel, on est porteur de lunettes. Il y aura une version pour les porteurs de lunettes. Rassurons-nous, plus cher.
J'ai même vu mieux, là, en lisant le... Il y aura un programme méditatif.
Ah oui, aussi.
Programme méditatif, vous rendez compte. Non, j'en sais rien. Honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. J'ai quand même tendance à penser que le coup de com' est plutôt réussi, mais ouais. Apple monte son coup de com', des fois ça baisse, quoi, après. Hein.
Bah, en bourse, ça a baissé un peu. Hein.
Oui. C'est ce que j'ai vu. Donc,
en fait, on achète la rumeur et on vend quand il y a l'annonce, quoi.
C'est pas très grave. Je vais garder mes lunettes.
Et 3000 milliards, ça vaut quand même 2850 milliards de dollars, quand même, l'Apple en bourse.
Oui.
C'est la plus grosse capitalisation. Ils ont de l'argent pour investir.
C'est ça, donc ils peuvent faire un pari industriel.
Vous savez ce qu'aiment bien les gens dans le télétravail ? C'est qu'on les voit jusque-là.
Ouais.
Et qui reste à la maison. Donc, qu'est-ce qu'il s'habille toujours ?
Non, avec le casque, vous pouvez rien porter. Bah,
hein. Vous êtes obligé de mettre la cravate.
Non, mais un dernier mot peut-être sur le prix quand même. C'est 3 500 dollars. C'est cher, c'est pas cher.
C'est très très cher.
Ah oui, mais il y a tout dedans.
C'est les éléments de langage d'Apple, c'est de dire oui, mais attendez, c'est 3 500, mais vous n'aurez plus besoin d'acheter de télé, vous n'aurez plus besoin d'acheter d'ordinateur. Donc finalement, c'est pas si cher que ça. Si, c'est évidemment très très cher, d'autant que c'est le prix américain hors taxe, donc en Europe ce sera probablement plus cher, que ça n'incorpore pas certains accessoires et notamment effectivement pour ceux qui portent des lunettes.
Ah oui. Enfin,
voilà, c'est évidemment un prix qui peut-être sera amené à baisser sur les futures versions. Il faut vraiment le voir comme une V1.
Mais qui ne sera pas amené à baisser beaucoup, parce que toutes les technologies qu'il y a à l'intérieur, avec tous les processeurs, les caméras, rien que ça aura toujours un coût.
C'est pour les entreprises, comme Henri, dans l'immobilier.
C'est vraiment là que ça va apprendre, c'est dans la santé, dans le monde industriel, dans l'immobilier. C'est là qu'il faut regarder le jeu vidéo. On verra dans un second temps. Et puis, il y a aussi, ça va être aussi pour toutes les applications qu'on a l'habitude d'utiliser sur son smartphone. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à débourser 3 500 $? On avait Luc Julia hier soir qui était ici même, là, sur ce plateau, qui est l'un des pères de Siri, l'intelligence artificielle de d'Apple, et qui nous a dit, moi, au début, il n'était pas très convaincu. À la fin, il dit oui, ben peut-être que quand je devrais remplacer mon iPad, peut-être que j'achèterai ça.
C'est-à-dire que si vous remplacez votre ordinateur, votre télévision, votre smartphone et votre casque audio, c'est pas cher.
Ça, c'est jamais la réalité. Non. C'est-à-dire qu'ils disent ça, mais en réalité, ça viendra se juxtaposer plutôt à tous les autres appareils qu'on a. Enfin, je vois pas quelqu'un remplacer tous ces appareils par ce casque. Même vous, Christophe.
Ouais. Cumuler.
Oui, vous allez cumuler, c'est sûr.
J'ai pas d'ordinateur avec mon iPad et tout, je me débrouille très bien.
J'ai vu qu'hier, Apple a annoncé un truc incroyable.
Quoi ?
On ne va pas dire, comme aujourd'hui, I Siri.
Ou d'ici,
on va dire Siri. Tout court.
Ah oui. C'est pas mal.
Je suis bouleversé.
J'en ai pas dormi.
Bon, allez, on va parler du secteur de l'immobilier parce que là, on peut parler.
Ça va intéresser Pierre-René.
Oui. Bon, on peut parler de crise.
Non, mais j'adore le virtuel, les casques.
C'est vrai ?
Non.
Pas du tout.
Caisse de chantier, éventuellement.
Allez, on parle de l'immobilier, puisqu'effectivement, c'est incroyable d'ailleurs de voir à quel point cette crise de l'immobilier est soudaine et brutale. Jusqu'en l'an dernier, on parlait des hausses de prix partout. Et là, quand même, en quelques mois, avec la hausse des taux d'intérêt, évidemment.
Oui, en fait, il y a un effet catalyse, lié à l'inflation, au dérèglement économique du moment, vous venez depuis une petite année, sur des dérèglements profonds. Alors, Pierre-René Lemoine les connaît intimement. Hein, il a été aux affaires, c'est un grand spécialiste.
À l'Élysée et à la Caisse des dépôts.
Et au ministère du logement. Il a été le patron de la grosse administration qui est au service du ministre du logement. Très très clairement, il pourrait témoigner. On fait partie des anciens, hein, 35 ans d'immobilier en ce qui me concerne. Pierre-René Lemaire a aussi une longue expérience. Depuis 30 ans, des choses qui n'allaient pas du tout. Et notamment, on a conduit à un logement trop cher, neuf, ancien, métropolisation, pas d'aménagement du territoire, tout s'est déglingué. Bon, et là-dessus, un crédit pas cher depuis 15 ans, un crédit accessible, a caché la misère.
Fait.
Voilà, ouais. Caché la misère. On se l'est caché, les pouvoirs publics se la sont cachés. Et là, effet de loupe, ça saute aux yeux et une dégradation qui se fait extrêmement vite parce que le crédit, c'est le levier. Vous multipliez par 4 le coût d'acquisition d'un logement, par 4 le coût de la promotion pour un promoteur, c'est la multiplication des taux d'intérêt. Bah, évidemment, on est précipité dans l'abîme. Mais ce sont des mécanismes qui étaient anciens. On ne s'y est pas collé. Et aujourd'hui, ce qui déçoit dans ce plan, c'est qu'on n'a pas l'impression que pour les années qui viennent, on s'y colle. La question foncière des terrains, faire baisser le prix des terrains. Il y a des intuitions dans le plan Borne. On ne peut pas dire l'inverse. Mais le chantier est ouvert, il n'est pas abouti.
Enfin, Henri Buzicazo, vous dites ça déçoit. On était il y a quelques instants avec Pascal Boulanger qui représente les promoteurs immobiliers. Il n'est pas déçu. Il est clairement au bout du rouleau. On l'écoute.
Ah, mais au bout du rouleau, l'appareil industriel, les entreprises.
Pour un vrai statut du bailleur professionnel ou privé. Ce statut a été rejeté. Nous, ce qu'on veut plus, c'est une instabilité fiscale. On peut pas concevoir des projets, on peut pas parler à nos clients et que ça change tout le temps. Donc on était pour un statut pérenne. On institutionnalisait l'acte de louer et on pouvait en faire un métier par le statut du bailleur professionnel pour des gens qui avaient 2-3 logements. Ouais. Il n'y a rien de tout ça. Non, nous sommes vraiment très déçus de ce qui est sorti hier.
Pierre-René Lemas, cette crise de l'immobilier, est-ce qu'elle est mal jaugée par le gouvernement ?
Moi, je crois qu'il y a un problème d'analyse au départ. On l'a vu dès le début du quinquennat précédent avec ce qu'on a appelé la loi Elan. Il y a une erreur d'analyse, à mon sens. Hein. Les mesures qui ont été prises sont cohérentes par rapport à une analyse qui me paraît inexacte, pour dire les choses aussi simplement que ça. C'est-à-dire que le gouvernement a un regard sur l'immobilier et sur le logement qui est le regard historique des financiers et de la direction du Trésor.
Il n'aime pas l'immobilier.
Non, il n'aime pas l'immobilier, mais c'était...
D'ailleurs, il félicite l'impôt sur la fortune immobilière.
Ouais, justement.
C'est de l'argent qui dort.
C'est pas vraiment une histoire d'amour. C'est l'analyse consistant à dire l'immobilier, c'est l'univers de la rente.
C'est ça. Les rentiers.
La rente, c'est très mal. C'est Louis-Philippe. L'économie, c'est autre chose. L'entreprise, l'industrie, c'est formidable. La rente, c'est pas bien. Bon. D'où l'impôt sur la fortune immobilière, d'où la suppression de la taxe d'habitation, qui me paraît... depuis 7 ans, une erreur.
L'erreur du quinquennat.
Une grande erreur, de ce point de vue-là.
Oui, parce qu'on supprime les recettes, il faut dire pourquoi. On supprime les recettes des maires qui n'ont aucun intérêt.
Aucun intérêt.
À construire de nouveaux logements.
On fait même quelque chose de doublement étrange. On enlève tout intérêt aux maires à construire des logements, ouais. Alors qu'ils vont construire des équipements, ça coûte très très cher. Deuxièmement, on coupe le seul lien compréhensible entre le citoyen et les pouvoirs publics.
Là où j'habite.
C'est un truc assez simple, ça veut dire je paye la taxe d'habitation parce que c'est là que j'habite.
Bien sûr.
Alors, les mesures qui ont été prises, moi je pense que c'est plus qu'une grande déception. Il y a un élément positif, enfin le Premier ministre s'en occupe. Et le fait que Madame Borne conclue le CNR, c'est bien, ça veut dire qu'il y a une prise de combat. Très bien. Non mais attendez, ça fait 7 ans que ça intéressait personne. Et puis il y a un élément négatif que je peux résumer assez simplement, c'est on attend des grandes mesures pour le logement qui se traduisent en réalité par les économies budgétaires.
Oui, 2 milliards.
Donc 2 milliards d'économies budgétaires alors que l'ensemble de la profession attendait quelque chose de plus, au moins une stabilisation avant de nouvelles idées. Je veux dire, Bercy a incroyablement bien joué et gagné tous les arbitrages. J'imagine que M. Klein est mal à l'aise en ce moment.
Oui, il dit c'est qu'une première étape, on ne peut pas en rester là.
Que voulez-vous qu'ils disent d'autre ? Le problème, c'est que, étant donné la situation du secteur, est-ce qu'on a le temps ? On ne l'a plus le temps. Ce qui est décevant dans ce plan, c'est qu'il est incantatoire, et les incantations, c'est-à-dire on verra, on va travailler. Quand vous entendez le ministre de l'économie dire « je suis en train de discuter avec le Haut Conseil de stabilité financière », je le disais à Pierre-René Lemas avant cette émission, mais il en est le président. C'est-à-dire que on se paie de mots, on nous fait du dilatoire et on n'a plus le temps. Pascal Boulanger, représentant les promoteurs, son confrère qui représente des constructeurs de maisons individuelles, c'est encore pire, puisqu'on les raye de la carte. On dit c'est terminé, on n'aidera plus.
Il n'y a plus de PTZ notamment pour eux.
C'est terminé. On ne veut plus, on continue à stigmatiser ce produit qui est le produit préféré, qui a beaucoup évolué.
Parce que c'est pourquoi ?
Artificialisation des sols.
Oui, mais il a beaucoup évolué, la parcelle. Il y a 10 ans, elle était 3000 mètres carré, elle est de 150 mètres carrés aujourd'hui. Donc tout ça, on ne le regarde pas. Vous savez aussi ce qui fait défaut, c'est que en tuant le député maire, non cumul des mandats, on a fabriqué des politiques qui arrivent au plus haut niveau, qui n'ont jamais été élus. On a les deux tiers du gouvernement qui n'a jamais eu de mandat exécutif. Quand vous parlez à des parlementaires qui retournent en circonscription, qui ont été maires, qui ont été conseillers départemental ou général, eh bien, ils entendent la souffrance des ménages qui n'arrivent pas à se loger, qui ne trouvent pas le logement pour les enfants, qui veulent un HLM ou un logement moins cher. Les élus qu'on a aujourd'hui, pour la plupart, n'ont pas c'est les élus de la Macronie, qui n'ont pas été élus précédemment, qui sortent comme ça de nulle part. Ils n'ont pas de capteurs. Et au gouvernement, même chose. Olivier Klein ne fait pas partie en plus de cette race. Mmh. Il a été maire de Clichy-sous-Bois, c'est un homme réaliste, on ne lui laisse aucune marge de manœuvre.
Et pourquoi il avale toutes ces couleuvres ?
Parce que là, clairement, écoutez, il n'a pas été entendu.
Bon, d'abord, quand quelqu'un accepte de se coller dans une mission de première importance, moi je le salue. Quand il est arrivé, normalement on n'avait pas de mise du logement. Le poste est créé, Olivier Klein l'accepte, moi je dis chapeau. Aujourd'hui, malheureusement, il est étouffé, cet homme souffre. C'est-à-dire que...
Parfois qu'il démissionne.
Il entend ce que disent les professionnels, il le voit quand il rentre à Clichy-sous-Bois, qui n'est pas la ville la plus riche de France. C'est tout l'inverse, les copropriétés en difficulté, il en est un spécialiste par exemple. Rien n'est fait dans ce plan pour les copropriétés en difficulté. C'est pas qu'il ne l'a pas demandé, c'est qu'on lui a dit non, c'est tout.
Frédéric.
Un petit mot, Frédéric.
Oui, je fais juste un lien, justement, avec le casque d'appel. Est-ce qu'ils ils réfléchissent aussi à toute l'influence, aujourd'hui, du télétravail, de toutes ces générations qui arrivent, qui bouleversent complètement la façon dont on travaille. On va plus au bureau, on reste chez soi.
Dans ce plan, il n'y a rien là-dessus. Vous savez, il y a des rapports qui ont été faits sur la nouvelle manière d'habiter, la réversibilité du logement, sur le télétravail à proximité. J'en ai même commis un rapport comme ça que j'ai remis à Mme Wargon il y a quelques années. Non, il n'y a rien là-dessus. Je crois que, en réalité, il faut avoir des chiffres en tête. Alors, c'est toujours embêtant, parce que le logement, c'est très ennuyeux dès qu'on rentre dans les logiques macroéconomiques. Hein. Mais en gros, on avait plus de 40 milliards de dépenses pour le logement, en gros, dans les années 16-18. On est descendu à quoi, 30 ?
On est à 36 et voilà. on va à la fin du quinquennat arriver à 30.
Voilà, et c'est les recettes fiscales correspondant au logement, elles sont passées de 70 milliards à 90 milliards.
Ouais. 92.
Alors 92.
Exactement.
Et le gouvernement nous dit, dans la trajectoire budgétaire, qu'il y a deux secteurs dans lesquels il va falloir faire des économies, en plus, le logement et le travail.
Ouais.
Donc, je pense que tout ça est cohérent par rapport à une certaine logique macroéconomique.
C'est cohérent avec une mauvaise logique.
Pas d'attaque à dominem.
Non, je reste c'est mon ancien collaborateur. Donc,
ça, c'est très méchant.
Donc, je reste très positif. Mais voilà, c'est un peu décalé de la réalité que vivent les gens aujourd'hui.
Un mot pour finir, parce qu'on a un spécialiste sur le plateau. Il y a une grande manœuvre autour d'Atos et de son président, puisqu'on a reçu un fonds sycomore tout à l'heure à 7h20, qui veut la tête du président d'Atos.
Oui, pour mettre un autre président que vous connaissez bien, parce que vous avez écrit sa biographie apothécaire, son prénom.
Léo
apothécaire. Apothécaire. On était tout à l'heure avec Sycomore qui nous expliquait pourquoi ils veulent le mettre à la tête d'Atos. On écoute.
Les prérogatives des actionnaires, c'est de décider de la composition du conseil. Ce conseil, force est de constater qu'il ne fait pas son travail, il ne prend pas ses responsabilités. Le bilan de l'entreprise depuis 3 ans est juste catastrophique. Nous estimons que la situation d'Atos est d'une telle gravité qu'il faut absolument faire quelque chose. Nous aurons pu simplement désinvestir, c'est-à-dire vendre nos titres, et passer à autre chose. Mais nous pensons qu'Atos peut se redresser.
Alors, Sycomore, c'est seulement 1% du capital, mais ils veulent donc mettre ce fameux Léo apothécaire, sans doute parce qu'ils ont lu votre livre.
Oui, on était en train de l'écrire. On n'en a pas.
Ah.
C'était non, mais c'est quelqu'un de très brillant qui a 20 ans chez SAP. Il a mené SAP jusqu'en haut. Il a été repéré par les dirigeants d'HP quand ça n'allait pas bien pour venir. Il n'a pas pu révolutionner.
Non, il est resté un an.
Il n'a pas pu vraiment révolutionner cet univers HP pris avec les actionnaires, enfin toutes ces histoires-là. Là aujourd'hui, ce choix-là de Sycomore est un peu surprenant parce qu'on est quand même aujourd'hui on doit chercher une autre génération de dirigeants parce qu'il y a du digital, parce qu'il y a du cloud. Alors il a accompagné tout ça, c'est quelqu'un de très intelligent qui connaît tout ça, mais voilà, c'est pas forcément ce profil, surtout d'un point de vue de management aussi où il faut rassurer. J'aurais peut-être vu des gens plus au fait de toute la stratégie digitale.
En tout cas, dans 3 semaines, on suivra évidemment avec intérêt cette assemblée générale d'Atos, beaucoup de choses autour du capital et autour des différentes activités qui pourraient être cédées.